Victoire. Des lesbiennes? Comment ça, des lesbiennes?
Chut, tu es pas si fort.
Extrait de As-tu vu les maisons sans porte?
Des lesbiennes? Comment ça?
Chut, ben, je te dis, moi, je viens juste d'y rencontrer sur les marches d'escalier, là. Il est quelle heure?
Là, il est à peu près 9 heures.
Ben, tu vois, 9 heures du matin, puis à ça, ensemble.
Puis?
Ben, puis, écoute-moi bien, là, l'autre matin, pendant que je balayais l'escalier, je les ai vus sortir. Ensemble. La fin de semaine, je les vois partir. Ensemble. Puis à chaque fois, là, ils ont quelque chose d'écrit d'en face.
Victoire, c'est quoi au juste qu'ils ont écrit d'en face?
Ben, je te dirais que c'est pas juste d'en face, là. C'est dans toute leur façon d'être. On dirait qu'ils... Ben, on dirait qu'à...
Ben, qu'à quoi? On dirait qu'à quoi?
On dirait qu'à Sam. C'est ça. À Sam. Oh, il m'a... À Sam. Oh, j'aime pas ça.
Victoire, Victoire, prends-tu toi et le revire-toi pas de même pour ça. Voyons donc.
À Sam. À Sam.
Nous sortirons de nos cuisines, un documentaire de Jenny Cartwright en 4 actes. Épisode 3, As-tu vu les maisons sans porte?
Moi, je suis arrivée au Théâtre des cuisines. J'étais déjà dans le mouvement féministe. J'étais membre off and on du comité de lutte pour le droit à l'avortement libre et gratuit. Je suis quelqu'un d'extraverti et puis j'ai toujours pensé que ça fonctionnerait pour moi en théâtre. Alors, je suis allée en me disant, c'est merveilleux, je vais faire du théâtre avec d'autres femmes féministes et puis on va parler de notre réalité. Alors, ça m'accrochait vraiment comme projet. Je m'appelle Joanne Doré, j'ai 69 ans. J'ai été membre du Théâtre des cuisines de 1979. À 1981. J'ai écrit en partie et collaboré et joué le texte « As-tu vu les maisons sans porte? » Et puis, c'est à la même époque que je me suis rendu compte que les femmes, je les aimais beaucoup finalement, plus que les hommes. Alors, je me suis rendu compte que j'étais lesbienne. C'est arrivé tout en même temps, une année très chargée que j'oublierai jamais.
J'ai été surprise de voir dans mes notes que c'est moi qui a proposé. Je pensais que c'était Solange, mais c'est moi qui a proposé à Solange. Et si on repartait le Théâtre des cuisines, et si on faisait un spectacle, mais cette fois, on devrait faire un spectacle qui parle de nous. Qui parle de nous, nous, femmes de 30 ans, militantes, féministes, de notre réalité, alors que dans Maman travaille pas, on parlait des femmes, les travailleuses, les ménagères, mais c'était pas nous.
Carole Fréchette.
Et puis là, Solange a dit oui tout de suite, et c'est comme ça qu'on a reparti le Théâtre des cuisines.
Quand j'arrive, c'est la première convocation. Je pense qu'on est environ 15-20 militantes féministes. Certaines avaient eu des expériences en théâtre, d'autres non. C'était le premier soir, c'était formidable. Une telle est ici, l'autre est là. On va faire quelque chose, un collectif. On va montrer toute la force du mouvement féministe, tout ça. Mais à la longue, on s'est aperçu qu'il y en avait qui étaient là, pas pour la bonne raison, je dirais. Là, ça devenait comme un groupe de support où tous les mardis soirs, je me rappelle plus quel soir, on se réunissait pour parler de nos vies parce qu'on se disait que ça va être basé, cette pièce-là, sur nos vies. Au bout de quelques temps, et on était assez patientes, puis dans ce temps-là, il ne fallait jamais chicaner, alors c'est quelques mois, moi, j'ai commencé à ressentir certaines insatisfactions parce que je me disais, on n'y arrivera jamais, là, s'il faut faire la thérapie de tout le monde qui est ici, ça va être un peu long comme processus.
Je pense qu'on avait oublié de rappeler que le Théâtre des cuisines était un théâtre féministe, militant et populaire. Je pense qu'on avait oublié de préciser ça parce qu'on prenait ça pour acquis.
Solange Collin.
Donc, il y en a qui sont venus parce qu'elles souhaitaient ce qu'on appelait à l'époque un groupe de parole, un groupe de self-consciousness, c'est-à-dire, et j'ironise pas, hein, parce que pour moi, peu importe le chemin qu'on prend, pourvu qu'on arrive à la libération. Mais c'est ça qu'elle voulait. Donc, qu'on s'assoie sans horaire, sans exigence, on parle de nos vécus, on parle de nous pour voir ce qu'il y a de commun entre nous et tout. Ben, sauf que c'était beau, mais ce n'était pas le théâtre des cuisines. Il y en a d'autres qui sont venues parce qu'elles avaient envie d'un théâtre, mais plus avant-gardiste, plus expérimental. Ben, elles auraient pu soit joindre le théâtre expérimental, soit partir une autre troupe avec une autre approche. Donc, ça ne fonctionnait pas du tout, c'était mais complètement désespérant. Et puis, là, on était deux de l'équipe de départ et nous, on avait la nostalgie de notre si belle équipe. On ne savait plus quoi faire. On a été complètement dépassés et évidemment, un groupe de femmes, on ne veut pas être autoritaire, on ne veut pas de leadership, on ne veut pas qu'il y ait de pouvoir, on ne veut pas bousculer personne. Bon, ben, on n'arrive à rien non plus en agissant comme ça, sinon à se nier nous-mêmes.
Donc, ça a piétiné pendant un bon bout de temps. Au bout d'un moment, on s'est dit, là, Solange et moi, que c'était trop long et trop difficile et qu'on n'y arriverait pas. Donc, on a proposé que quatre d'entre nous écrivent un canevas et le proposent aux autres. Puis, on a fait ça avec tout ce qu'on avait entendu puis tout ce qu'on avait envie de dire dans ce spectacle. On a écrit un canevas. Et mais là, en écrivant le canevas, on s'est rendu compte qu'en fait, ça marchait très bien à quatre. Et puis... que là, on s'est dit, il va falloir aller présenter ça à tout le groupe. Et on s'est dit, on sent qu'on a des affinités, des objectifs différents, et il faut le dire. Donc, on a fait un putsch. Oui, on a fait ça. Je me rappelle qu'on a dit, Solange et moi, on a dit, ben on reprend le contrôle du théâtre des cuisines. Et puis, voici, nous, on pense que c'est ce canevas qu'on veut faire. Et puis, on pense que avec telle personne, on peut le faire, mais telle autre, on a l'impression que nos objectifs sont différents et tout. Et on vous demande de partir. Alors, c'était pas glorieux pour des filles qui avaient écrit quelques années avant dans leur manifeste « Nous n'avons pas de chef » et ça marche très bien. Mais c'était la seule façon et on l'a assumé. Mais c'est sûr que ça a créé des tensions au départ. Celles qui sont parties, il y en a qui l'ont mal pris, c'est sûr. Et celles qui sont restées, elles ont toujours senti qu'elles n'avaient pas une vraie place. Donc, je pense qu'il y a eu un vrai problème de leadership. Moi, j'ai beaucoup appris dans cette expérience-là. J'ai appris que vaut mieux un leadership et une direction assumée que cette espèce d'utopie de « il n'y a pas de chef, puis on décidera ensemble ». En plus, on avait un objectif qui était de faire un spectacle de théâtre. Mais pour faire un spectacle de théâtre, il faut prendre des décisions. Qui prend les décisions? Et en général, dans les compagnies de théâtre, il y a une direction artistique et les gens se regroupent autour de cette direction artistique. Mais là, nous, on refusait ça. On disait non, non, le théâtre des cuisines, c'est nous toutes maintenant. Mais au fond, celles qui étaient là depuis le début se sentaient les héritières du théâtre des cuisines, en tout cas. Donc, ça a été assez pénible comme expérience. Mais on a, malgré tout, réussi à écrire une pièce dont on était bien contente à l'époque.
On est libérés.
Hourra!
On est pouponniers.
Hourra!
On est émancipé.
Hourra!
Vous avez un emploi pour moi? En électronique? Pour moi? Ah, c'est quand mon grand frère va savoir ça? Ah, merci, Técar. Merci infiniment. Merci passionnément. Merci à la folie.
Je porte toujours les bas-culottes Kaiser. Les bas-culottes qui soutiennent la démarche des femmes. Bon, Yen, une maille.
Une femme libre ne se promène jamais sans tampon. Grâce au tampon, je peux faire de la bicyclette, de l'équitation, de la natation, du surf, de la danse moderne. Si je n'avais pas de tampon, je ne serais pas ici ce soir.
Je suis une femme libre.
Je suis une femme libre.
Je peux conduire une Renault.
Je peux conduire une Renault. Montez, les filles!
Montez, les filles!
Je peux me saouler aux cinq anneaux.
Tchin tchin!
Je peux me trouver un homme à l'agence Astro.
Chanceuse!
Avec mon four micro, ma cuisine électro, je suis aux oiseaux.
Oh! Je peux faire l'amour quand ils veulent avec la pilule ortho.
Vive la pilule!
Je peux aller croiser à disco.
Allô?
Allô?
Je peux sortir.
Sans danger.
Dans les rues...
Peut-être... Non, sur Saint... Non.
Ontario.
Eh bien, le mouvement des Yvettes a fait boule de neige. C'est finalement près de 14 000 Yvettes qui sont réunis au Forum de Montréal ce soir pour entendre une vingtaine d'orateurs défendre la cause du non au référendum.
Des marchands d'illusions qui voudraient nous précipiter dans une aventure que nous pouvons lucidement prédire pouvant être un désastre. L'indépendance.
L'histoire d'Yvette prend des proportions insoupçonnées. Et chose certaine, au Québec, aucun parti politique ni aucune revendication féminine n'avait réussi à mobiliser autant de femmes en si peu de temps.
La première de « As-tu vu les maisons s'emporte » a lieu le 10 mai 1980, 10 jours avant le premier référendum sur la souveraineté du Québec. Un vent de conservatisme souffle sur l'Occident. Il porte Reagan au pouvoir aux États-Unis, Mulroney au Canada, favorise la réélection de Thatcher au Royaume-Uni. Les politiques de privatisation profitent à ceux qui ont déjà tout, et on assiste au démantèlement progressif de l'État et du bien commun. Le Parti québécois est réélu en avril 81. Sa gestion et ses budgets se font de plus en plus rétrogrades. Il effectue d'importantes compressions dans les secteurs de la santé et de l'éducation, domaine presque exclusivement féminin, et ampute de 20 % les salaires des employés de l'État. La province connaît sa pire récession depuis les années 30. Les taux d'intérêt et le chômage atteignent des sommets. Les finances publiques sont exsangues. Les acquis de la Révolution tranquille chancellent. Comme d'habitude, ce sont les femmes qui en souffrent le plus, pendant que les grands médias martèlent jusqu'à plus soif qu'elles en ont eu assez. Qu'elles se serrent la ceinture, elles aussi. Les temps nouveaux sont cernés, et les rêves collectifs à bout de souffle.
Ne tombez pas en amour avec moi. Montez plutôt les fers quelque part. Ne pleurez pas d'amour. La vie est trop belle, quant à moi, ne vivez pas en amour avec moi.
J'ai relu dernièrement « As-tu vu les maisons s'emportent ?» et je m'en souvenais pas du tout. Du tout. Je lisais cette pièce-là comme si ça me concernait pas, comme si... J'avais pas participé à l'écriture, à la création. C'était très troublant. Bon, en avançant dans le texte, là, je reconnaissais, et il y avait des photos. Alors, forcément, là, je voyais que j'avais joué. Ah oui, j'ai joué ça, oui, j'ai joué ça. Mais au début, un blanc total. Et je me suis dit que ce blanc total-là était à l'image de cette période-là, en fait. Comme ça a été une période très difficile, il y a une partie de moi qui l'a biffée, qui l'a effacée. Je pense qu'une des scènes que j'aimais beaucoup, c'était une scène de couple hétéro où on avait mis les consciences. Donc, il y avait l'homme du couple, la femme du couple. La femme avait sa conscience qui parlait et l'homme avait sa conscience. Moi, je faisais l'homme. Ça, je trouvais ça aussi très efficace. C'est-à-dire le couple qui essaie de se parler, surtout la femme qui essaie d'amorcer des discussions qu'elle aimerait avoir. Et l'homme qui trouve qu'elle est donc compliquée, mais qui le dit pas nécessairement parce qu'il veut pas non plus que ça fasse de la chicane. Ça, c'était une des scènes que j'aimais.
Dans la cuisine, Hélène est assise et écrit son journal. Sa conscience se tient penchée sur elle et nous dit ce qu'Hélène écrit et pense. Durant toute la scène, la conscience d'Hélène est physiquement très proche d'elle, tandis que celle d'Alain est plus distante.
Ça t'intéresse pas de savoir quelle sorte de journée j'ai passée?
Bon, belle soirée en perspective. J'aurais aimé se passer une soirée tranquille, là. Je suis fatiguée. Ah, puis qu'est-ce qu'elle a, donc? Qu'est-ce qu'elle veut encore?
Ah, ça, j'ai ça quand tu fais ça, là, quand tu fais semblant que tout va bien, il arrive, il me donne un petit bec. Il allume la TV, puis quand j'y pose une question, il répond pas. On est mal parti pour se parler. Moi, j'étais à l'envers toute la journée. J'ai pas arrêté de penser ce qui s'est passé hier. J'aimerais ça qu'on essaye de comprendre ensemble ce qui s'est passé.
Hélène, ça me tente pas de passer toute une soirée à parler de ça.
Oui, mais c'est toujours ça que tu dis, là. Vas-tu bien, toi?
Si t'allais bien, j'irais bien.
Ah, c'est ça. Envoyez Hélène, tout est ta faute. T'as rien qu'à être de bonne humeur, puis tout va bien aller.
Je comprends pas. J'ai pas le tour de parler de ces affaires-là. Elle, elle sait comment, mais pas moi. Ah, puis de toute façon, c'est des reproches qu'elle veut me faire. Ben oui, hier, je me suis choquée. Je me suis excusée, c'est assez. Pas besoin d'en parler pendant des heures. Passons à autre chose, maudit. Ça va vraiment pas bien. Ça va vraiment pas bien. Hélène, qu'est-ce que t'as?
Ben, je sais pas, j'ai l'impression qu'on avance pas.
Qu'est-ce que ça veut dire, ça?
Ben, par exemple, je trouve que... Ben, il se passe pas grand-chose quand... Quand on fait l'amour, là, je suis pas sûre, mais... Je pense que c'est à cause de ça qu'il m'arrive souvent de pas en avoir envie. Trouves-tu ça, toi?
Je sais plus trop, moi, de ce que je trouve, là. Il me semble que ça va pas si mal que ça.
Le maudit, je l'achale. Ben moi, ça va pas bien, en tout cas. Ça te dérange-tu?
Ben oui, ça me dérange. Ça me fait chier.
Bon, ça me dérange, mais il se sent pas concerné. C'est comme si je parlais de quelqu'un d'autre.
Hélène, on mange-tu, là?
Bon, là, il me fait comprendre que c'est assez. Faut que je arrange les affaires. Penses-tu que tu vas être plus jasant après?
Ah, change d'humeur, ça fait du bien. On sait jamais.
On fuit la discussion encore une fois. Pourquoi il ne veut pas parler? J'en peux plus de mijoter ça toute seule le matin. Alain, là, il va quand même falloir qu'on parle. Parle, maudit!
Ça finit par faire un spectacle ensemble, où là, par ailleurs, c'est notre spectacle le plus réussi du côté décor. Ah, ça, c'était... magnifique. Il y a une femme qui s'appelle Lise Nantel qui a pris en charge la création de ce décor-là et je pense 25 femmes qui sont venues le confectionner. C'était des panneaux qui étaient pris ensemble, rattachés ensemble et comme des tapisseries. Sur un côté de tous ces panneaux-là, c'était l'extérieur. Donc, des images de rue, d'usines, de cours, on était à l'extérieur. Et il y a un moment dans la pièce où là, on dit, on va aller voir ce qui se passe à l'intérieur. Et on les tournait, et ça se faisait comme ça, facilement. Et là, c'était que des pièces de la maison. Une chambre d'enfant, une chambre, une cuisine. C'est beau, coloré, magnifique. Et quand on disait... que les maisons s'emportent, eh bien, on dissociait chaque panneau pour montrer que tout éclatait. Et il y avait des accessoires, évidemment, et tout était fait en tissu, comme de l'artisanat, là. Donc, si on avait une carotte, un jambon, c'était fait en tissu, c'était vraiment magnifique. Les femmes avaient une maison sur le dos. Alors, quand on a voulu montrer visuellement que les maisons ne sont jamais sorties de nous. En fait, on portait chacune dans notre dos une maison avec des courroies, là, comme un sac à dos, mais c'était des maisons qu'on portait. Ça, visuellement, tu n'as même pas un mot à ajouter, tu as tout dit. J'ai autre chose à dire sur ce spectacle-là, c'est que c'était un spectacle qui était finalement très avant-gardiste parce qu'il traitait de ce qu'on appelle aujourd'hui la charge mentale. Et moi, je trouve que ce mot, cette expression-là de la charge mentale exprime tellement ce que les femmes vivent actuellement. On traitait de ça, en réalité. On est sortis de nos maisons, mais les maisons ne sont jamais sorties de nous.
Dans les autres pièces, on avait parlé plus de problèmes sociaux, de grève des ménagères, de lutte pour l'avortement. Mais là, on s'était dit, mais nous, on est des militantes féministes, ça fait quelques années qu'on fait ça, et on trouve ça difficile au jour le jour de savoir qu'est-ce que ça veut dire être une féministe dans notre vie. Qu'est-ce que ça veut dire avec nos compagnons? Qu'est-ce que ça implique de lutte avec eux ou de compromis? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça change dans notre vie? Donc, il y avait une première partie de la pièce qui faisait un peu, qui récapitulait un peu les luttes féministes qui se sont développées des dernières années.
Ah, oh, j'en peux plus de tout faire en même temps, le travail, la maison, les réunions.
41-84, Saint-André. Lundi matin, les petits, la job puis le lavage.
4900, Colonial. Mardi matin, discussion, la job, réunion, puis le chicanage.
36-70, Saint-Denis. Mercredi matin, enceinte, la job, puis le broyage.
10-21, Ontario-Ouest. Jeudi matin, les lunchs, la job, puis leur passage.
21-86, Papineau. Vendredi matin, toute seule, la job, puis le tiraillage.
La 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 la. Puisque c'est comme ça, nous en avons plein le dos.
Puisque c'est comme ça,
nous en avons plein le dos.
On est sortis de chez nous, mais on a des vies de fous. Il serait grand temps qu'on sorte le dedans. Il serait grand temps qu'on sorte.
Je préférais, moi, la deuxième partie parce que ça s'adressait plus directement à ce qu'étaient nos vies à nous, chacune. Donc, les différents moments, comme moi, je faisais la femme seule et j'avais beaucoup d'amis à cette époque qui étaient des mères célibataires comme ça et qui se disaient « Ah, ça me dérange pas, c'est formidable », mais dans le fond... Quand t'es jeune, en plus, t'aimes bien avoir des bras aimants et quelqu'un pour t'aider à supporter le poids des enfants. C'était tout le discours de dire « je suis forte, je suis capable d'être seule, d'affronter la terre entière ». Mais dans le fond, ça te manquait quand même là, d'avoir quelqu'un dans ta vie. Puis j'aimais bien le bout des lesbiennes aussi, parce que de confronter la salle en disant « qu'est-ce que ça vous fait d'entendre ça », tout ça, c'était brasser les choses à ce moment-là. Le coup de fil de la femme seule, oui, c'est moi qui l'avais écrit, oui.
Oh, écoute, Pirette, je pense que je tombe mal, hein, parce qu'à soir, ça m'aurait tenté de sortir, de prendre un verre quelque part. Ah non, sortir toute seule, je trouve ça trop plate. Tout le cinéma passe encore, mais aller dans un bar, non. Voyons donc, toi. C'est pas parce que j'ai le goût d'aller dans un bar que j'ai le goût de cruiser. Oh, j'aurais bien envie de rencontrer du monde, par exemple, mais ça n'existe pas des endroits comme ça. En tout cas, moi, j'en connais pas. Parle-moi-en pas de la température, c'est-tu friance? Ça me remonte pas le moral, hein? Oui, je l'ai appelé. À soupe en privé avec Françoise. Tu sais, des fois, je vous envie assez d'habiter avec quelqu'un. Hein? Ben oui, j'y pense, là. Puis ça me remonte le moral, c'est effrayant. C'est pas grave, Pirette. Ben oui, on se reprendra. Je comprends.
OK. Dis bonjour aux enfants, hein? OK? OK, bye. Ça me remonte le moral, je comprends. L'autonomie. Je suis une femme seule. Seule et autonome. Je te jure que si à soir, je rencontrais le cave qui a inventé ça, il passerait un mauvais quart d'heure. Il n'a pas dû souper souvent tout seul, lui. Poilu, ça t'arrive-tu, toi, te sentir tout seul? Dire que je peux même pas laisser la fenêtre ouverte de cette sens-ci. Je suis pas vivable, hein? Pauvre minon. Ouais, c'est ça que je reçois du monde. Que si je suis tout seul, que j'ai pas de chum ou de blonde, je suis complètement en dehors de la traque. Puis que c'est bien de ma faute. Au bedon, c'est le contraire. Puis c'est ta mode à part ça. Louise, es-tu fantastique, hein, cette petite femme-là? Est capable de tout faire dans la vie, puis elle fait tout. Elle se lève, elle se fait son petit déjeuner, elle travaille à l'extérieur, elle entretient son petit logement, elle se fait à manger, elle sort quand elle veut, elle rentre à l'heure qu'elle veut, puis elle se couche. Toute seule. Hey, c'est au bout. J'ai acheté du steak à soie poilu. Du steak, c'est si vite fait.
Mais moi, il faut dire que... J'ai une histoire particulière avec les maisons sans porte. J'ai participé à l'élaboration de la pièce, mais à partir de, je sais pas, peut-être à partir du mois de février, j'ai été en congé de maternité. Donc, il y a un bout auquel j'ai pas participé. Puis au début, je jouais pas dedans parce que je venais d'accoucher. Puis je pense que c'est plusieurs mois après la création que j'ai rejoint le groupe et que j'ai finalement joué dedans. Le plus intéressant pour moi, c'était une scène de couple où une femme, une jeune femme là, qui vit en couple, je pense avec un jeune enfant, puis il y a une discussion sur « mais toi, tu m'avais dit que tu allais le garder, puis moi, bon, mais oui, mais moi, j'ai une réunion, oui. » Tu sais, des scènes qu'on connaît tous.
Tableau 9, les compromis où je me sens déchirée, j'essaye autre chose. José et François vivent ensemble avec leur fils d'un an et demi, Antoine. Le tableau se passe après le souper. François est assis à la table de la cuisine, il lit son journal. José est de dos au public et s'adresse à un Antoine imaginaire.
Pas déjà 9h moins quart? Oh, je vais me faire un café pour me réveiller. En veux-tu un, François?
Non, merci.
Bon, François, faudra organiser la semaine.
OK, je vais aller chercher mon agenda.
Faut aller à la clinique avec Antoine.
À la clinique? Pourquoi?
Pour son vaccin. On est déjà 2 semaines en retard.
C'est ouvert à quel jour?
C'est ouvert tous les jours, jusqu'à 6h.
Ah, cette semaine, là, il y a un gros rush au bureau. Là, je peux pas m'absenter.
OK, je vais y aller. Peux-tu aller à la réunion de la garderie d'abord?
C'est quand?
Demain soir. C'est important d'y aller. Je sais pas ce qui se passe à la garderie, mais je trouve Antoine assez agressif.
C'est vrai qu'il file pas bien. Hey, un matin, il a pleuré quand je l'ai laissé.
Il a encore pleuré? Faut faire quelque chose, François.
OK, gars, je vais y aller, là. Mais je vais peut-être être en retard parce qu'on est en réunion de 6 à 8 au syndicat.
De 6 à 8? C'est pas une heure pour se réunir, ça? C'est rendu qu'on prend même plus le temps de manger.
Là, on n'avait pas d'autre temps, là. C'est pas grave, je vais m'arranger. C'est tout.
Ben non, c'est pas tout. Si tu t'occupais vraiment de ce qu'il y a à faire dans la maison, tu le saurais. Le panier à lavage déborde, Antoine n'a plus de souliers, faut y en trouver.
Hey, choque-toi pas, là, choque-toi pas. Quel jour tu vas aller magasiner?
Vendredi? Ah non, pas vendredi, je vais à la clinique. Jeudi d'abord. Ah, jeudi, c'est ma grosse journée à l'hôpital. Puis je le sais pas. On peut peut-être attendre en fin de semaine?
Ah ben là, justement, là, j'ai oublié de te le dire. Tu sais, là, il y a le congrès qui s'en vient au bureau. Ben, ils m'ont demandé d'être sur le comité de préparation, puis comme il y a un gros rush de ce temps-là, faudrait que je travaille le samedi.
Puis t'as dit oui?
Ben, je peux pas toujours refuser.
À date, t'as plutôt eu tendance à toujours accepter. Ça commence quand?
Cette semaine.
François, on avait dit que les fins de semaine, c'était pour nous. On court déjà comme deux fous toute la semaine. Puis Antoine là-dedans, puis moi.
Il y avait un vrai questionnement sur quand est-ce qu'il faut lâcher, quand est-ce qu'il faut pas lâcher. Et puis, en fait, la façon dont on avait tourné ça, c'est qu'il y avait deux versions, encore une fois, de la scène. Il y avait une version où la femme finissait par dire, bon, OK, c'est correct, que je comprends, ta réunion, c'est important. Puis il y avait une autre version où elle disait, non, je cède pas cette fois-là. Et puis, il y avait tout le questionnement de, est-ce qu'il faut céder? Et puis, je trouvais que ça représente très, très bien les questions qu'on se posait à ce moment-là.
José regarde le public, se lève et va s'adresser directement au public à l'avant-scène.
J'ai accepté ce qu'il me demandait. Trouvez-vous que j'ai eu raison? Moi, je le sais plus. C'est sûr que je suis capable de m'arranger. On est toujours capable de s'arranger. Puis quand je dis oui, c'est plus détendu dans notre relation. On se chicane pas. Mais là, je commence à me demander pourquoi il faut que ce soit toujours moi qui s'arrange. Je me sens déchirée. J'aurais le goût d'essayer autre chose. Oui, j'essaye autre chose. Parlons-en justement. Tu t'occupes d'Antoine, mais c'est moi qui se sens responsable. C'est moi qui pense à tout, qui planifie tout, qui organise tout, qui se demande s'il va à la garderie, s'il est heureux, puis toi... Tu proposes jamais rien.
Mais là, José, là. On dirait que tu sais pas comment ça se passe dans le monde du travail. Déjà que moi, je passe pour un gars qui compte son temps goutte à goutte.
Dis-leur que tu peux pas, parce que t'as un enfant d'un an et demi qui a besoin de te voir, puis une femme aussi. Une femme qui travaille puis qui fournit plus.
T'es-tu folle? Voyons, José. C'est bien que je peux pas dire ça à ma job. Oh là, un vrai fou.
Je l'ai dit, moi, l'année passée, quand il a fallu soigner Antoine.
Bah, c'est pas pareil.
Pourquoi c'est pas pareil?
Je le sais pas.
C'est ça. Ça passe pas facilement non plus.
Hey, Chris, là, qu'est-ce que tu veux? Que je prenne une job plate puis que je rentre tous les soirs à 5 heures? C'est ça que tu veux? Pas capable, moi, de faire ça.
Je veux que tu fasses une job que t'aimes puis que tu brasses toutes sortes d'affaires, mais... pas sur mon dos.
Hey, c'est pas de ma faute si on me demande de courir, OK? C'est pas moi qui ai inventé les règles du jeu.
C'est pas moi non plus, mais moi, j'essaye de les changer.
Moi aussi.
Es-tu sûr?
Wow, là, tu vas bien trop loin.
Si tu veux les changer, fais quelque chose.
Fais 10 fois, là, que je te le répète, ça donnera rien.
Mais t'en as même pas parlé. Essaye au moins. Faut bien qu'il y en ait un qui commence un jour.
Ça changera rien.
Tu y crois pas.
Mais voyons, Josée, sois raisonnable, là. Arrête de jouer à martyr. Tu réagis comme si j'étais le pire des mâles chauvins qui lèvent pas une épingle dans la maison.
François, tu me la passeras pas, celle-là. C'est pas ce que je dis, puis tu le sais très bien. Je reviens pas sur ma décision, je l'accepte pas. Je veux plus prendre la charge d'Antoine, de la maison, puis de nous deux. Fais quelque chose. Il me semble que c'est à ton tour.
Hostie que t'as la tête dure.
Ouais. Puis je vais la garder toute ma vie.
Ce que j'allais dire aussi, c'est que quand t'accouches d'un enfant, c'est mon premier enfant, t'as juste envie de faire un cocon avec le père de ton enfant, avec ton enfant. Donc, c'est une période où j'avais juste envie qu'on soit bien puis qu'on soit en harmonie. Et donc, c'était difficile pour moi de poser ces questions-là à ce moment-là. Puis, je commençais à sentir les impasses de ça aussi. À sentir que, disons, J'avais très envie de construire une relation à long terme avec cet homme-là. Quand tu fais un enfant, c'est pas pour te séparer l'année d'après. Et puis, y a des limites à être en guerre avec la personne que tu aimes. Tu sais, ça a coûté cher au couple, hein, le féminisme dans les années 70. Quand on y pense, c'était des bouleversements profonds. Ça coûtait quelque chose émotivement. On vivait ça pendant ce temps-là, puis c'était dur. C'était dur de vivre ces séparations-là, puis de sentir qu'on était en amour, mais que notre chum, il correspondait pas à ce qui aurait dû être. Alors, nous, c'est de ça qu'on voulait parler, puis principalement. Puis je pense que le fait qu'il y avait ces femmes qui, elles n'avaient pas ces contradictions parce qu'elles ne vivaient pas avec des hommes et qu'elles, elles avaient envie de parler de leur réalité qui était d'être homosexuelles, puis c'est quoi leur place dans le mouvement féministe, puis etc. Et puis, elles ont trouvé qu'on ne leur faisait pas assez de place. Et puis peut-être que nous, on était dérangés parce que ce n'est pas de ça qu'on voulait parler, je ne sais pas. Puis je pense que c'est ça. Puis là, je relisais là, dans les textes que ces femmes ont écrits là, à la fin du livre des Maisons sans porte. Puis, tu sais, il y en a une qui écrit « Être lesbienne, c'est un choix personnel et un choix politique. Être lesbienne, c'est affirmer l'indépendance émotive et économique des femmes. » Mais à partir du moment où tu dis qu'être lesbienne, c'est un choix politique, ça veut dire qu'il y a plusieurs choix. Donc, c'est une option politique. C'est pas seulement un désir ou ça vient pas seulement d'une pulsion personnelle. C'est aussi un choix politique. Et donc, tu commences à comparer les choix politiques. Est-ce que ton choix politique est plus valable que mon choix politique? Il y avait tout ça aussi. Il y avait la question de est-ce que les lesbiennes vivent un féminisme plus total et plus radical puisqu'elles n'ont pas à faire ces compromis avec les hommes dans leur vie. Donc, il y avait tout ça qui était... Puis comme le spectacle allait parler de nos vies, bien, on était confrontés à ça. Puis je pense que dans ce groupe-là en particulier, parce qu'il n'y avait pas des objectifs clairs et pour toutes sortes de raisons, il n'y avait pas la confiance pour parler de ça et qu'on se sentait tout un peu... jugé par les autres et attaqué de part et d'autre.
Quand est venu le moment de publier « As-tu vu les maisons sans porte? » On voulait un texte de présentation. Et là, on s'entendait tellement pas qu'on n'arrivait pas à écrire un texte de présentation commun. Alors moi, il y en a une donc qui était en congé de maternité à cette époque-là. Moi, j'ai proposé qu'elle écrive un texte à partir de son point de vue à elle et que nous, dans la marge, on vienne commenter autant qu'on voulait, tout ce qu'on voulait, qu'on vienne commenter ce qu'elle avait écrit. Oh là 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 là! Qu'est-ce que j'avais dit? Qu'on allait être dans la marge. Mais moi aussi, j'allais être dans la marge, je me suis dit, là. Je mettais personne sur un piédestal, là. Et ça a été jugé très scandaleux, très effrayant. Alors, elle l'a fait, elle l'a écrit, je l'ai commenté. Une autre a accepté de le commenter. Et puis les autres ont écrit un autre texte ensemble qui leur convenait mieux. C'est vraiment un groupe qui parvient pas à créer l'harmonie.
Mais à ce moment-là, lorsque le livre a été publié, la rupture était déjà consommée. Mon souvenir, là, ça fait quand même un petit bout de temps de ça, je crois qu'on avait été avisé qu'on ne faisait plus partie du Théâtre des Cuisines, on avait été exclu. Bon, on ne s'est pas opposé à ça parce qu'on trouvait que c'est légitime aussi. Là, il était là au début, alors c'est normal qu'il garde tout ça. Sauf qu'on n'aimait pas l'idée que notre contribution soit niée et puis qu'il y ait juste un texte de finale qui disait c'était ça le Théâtre des Cuisines, puis ça a été une épreuve, puis ça a été les maisons sans porte, ça a été trop dur à réaliser. On trouvait que les autres étaient trop radicales pour nous, donc on a mis fin à cette entente-là. Donc, nous, on a trouvé que c'était important à ce moment-là de faire notre partie, notre interprétation de ce qui se passait.
Extrait de la publication de « As-tu vu les maisons sans porte? » Joanne Doré, Suzanne Lemire, Joanne Melançon. Quelque part où nous n'étions pas, on a décidé de la forme que prendrait l'introduction de la publication de la pièce. Par la suite, quelque part où nous n'étions toujours pas, on a expliqué comment s'est bâti ce recueil de textes annexes. Nous nous sentons dans la nécessité de vous donner, en plus de notre compréhension de l'histoire des maisons sans porte, notre position dans l'histoire de ce recueil de textes annexes. Nous n'avons pas pu parler de comment la composition du groupe, de majorité hétérosexuelle au début, est passée à une majorité lesbienne, ni des possibles conséquences politiques et esthétiques de ce changement, de ce qu'on aurait aimé faire dans un prochain spectacle plus proche de nous, de contenu et de forme, un théâtre féministe sans doute, probablement militant. Mais serait-ce un théâtre forcément populaire? Les femmes et les lesbiennes ont-elles toujours intérêt à parler à tout le monde et à être comprises de tout le monde en même temps?
En fait, le conflit, je trouve pas qu'il s'est produit sur les maisons sans porte comme telles. Nous, on était les nouvelles. Et puis, il y avait la garde qui avait fait « Maman, travaille pas trop d'ouvrage et nous aurons les enfants que nous voulons ». Mais ils se sentaient isolés. Il y avait peut-être peur qu'on perde la ligne du théâtre des cuisines, qui avait toujours été un théâtre militant féministe. Ça intéressait pas du tout au genre lesbienne ou homosexuel. Ça avait jamais été pensé dans ce sens-là. Alors, je pense qu'elle craignait un peu qu'on s'en aille vers ça. Mais en fait, il y avait un sketch... une partie de la pièce, peut-être, je sais pas, un sixième de la pièce, un huitième de la pièce, qui était dédié à un monologue qui était joué par mon amie Joanne Melançon. Et puis, c'était une histoire qui lui était arrivée à elle, où est-ce qu'elle avait souffert de discrimination, alors elle racontait ça dans la pièce. Et à ce moment-là, je peux vous dire qu'au Québec, là, dans les années 80-81, il y avait un malaise dans la salle chaque fois qu'elle arrivait avec cette partie-là.
Je le sais qu'ils savent que je suis lesbienne. Je le sais. Puis vous autres, qu'est-ce que ça vous fait de savoir ça?
On ne fait pas du théâtre de participation. Vous n'êtes pas obligé de répondre tout de suite.
Peut-être que vous n'en avez jamais vu. Ça se peut. Mais ce n'est pas parce qu'il n'y en a pas. C'est parce que c'est dur à montrer. Mais des fois, on décide de le montrer pareil. Je vais vous raconter une de ces fois-là.
Ça vous met peut-être mal à l'aise, mais ce soir, on aimerait vous en parler.
Sylvie puis moi, ça faisait 4 ans qu'on était ensemble. Puis ça faisait 3 mois qu'elle était partie en France pour finir des études. Moi, je voulais à tout prix aller la retrouver. Mais je n'avais pas d'argent, puis je n'arrivais pas à me trouver une job. Ça fait que, faute de mieux... je me suis lancée dans une de ces productions de macramé. Vous savez, les belles petites jardinières, là? Un pot, 2 pots, 3 pots. En avez-vous des comme ça chez vous? Oui? Oh ben, c'est peut-être moi qui les ai faites. Je vous remercie beaucoup.
C'est des vraies jardinières d'amour. Si vous l'aviez su, l'auriez-vous pris?
Ça fait que ben des macramés plus tard... je me suis retrouvée dans l'avion, puis dans le prix de mon billet d'avion était compris 4 nuits d'hôtel pour 2 à Paris. Ah, j'avais assez hâte de retrouver Sylvie, mais on avait assez d'affaires à se raconter que la première chose que je me suis aperçue, c'est qu'on était rendu à l'hôtel devant la porte de la chambre. Ça fait que j'ouvre la porte de chambre, et puis qu'est-ce que vous pensez qu'on a trouvé là? 2 beaux petits lits de pensionnat de chaque côté de la porte dans une chambre à peu près grande comme ma salle de bain avec une belle vue panoramique là, qui donnait droit en face sur le mur du building d'en face. Laissez-moi vous dire que c'était pas tout à fait ça qu'on avait dans l'idée quand on avait réservé une chambre pour 2.
Vous savez ce que c'est quand on est en amour puis qu'on s'est pas vu depuis 3 mois? Ben, pour Jacinthe et Sylvie, c'était pareil.
On s'est dit qu'il y en avait peut-être plus de disponibles, des lits doubles. Après tout, Paris, c'est bien la ville des amoureux, hein? En tout cas, on irait vérifier demain, et si c'était le cas, ben on changerait d'hôtel. Pour l'instant, on a décidé d'essayer de réaménager cette petite chambre-là du mieux qu'on pouvait. Ça fait que pousse les deux petits lits d'un bord pour essayer de les coller ensemble, ça marchait pas. Ça bloquait le lavabo puis le gros bureau. OK. Pousse les deux petits lits de l'autre bord pour les coller ensemble, ça bloquait la porte. Ben la porte, on s'est dit, la porte. Comme ça, au moins, on serait bien sûr de ne pas être dérangé.
C'est le moment délicat de notre histoire. Peut-être que vous imaginez mal ou peut-être que vous imaginez pas.
C'était pas des plus confortables ni des plus romantiques. Mais quand les deux petits lits se sont séparés puis qu'on s'est ramassé à terre, matelas, oreillers, draps puis tout le bordel par-dessus la tête, on n'a pas pu faire autrement que de trouver ça pas mal comique. Ça fait que c'est là que Sylvie puis moi, on a passé la nuit à terre entre les deux petits lits de fer à Paris.
C'est aussi simple et aussi beau que ça.
Le lendemain matin, on s'est réveillé avec un mal de rein épouvantable, mais quand même de bonne humeur. Au moins, on était ensemble. Mais avant de partir faire nos touristes, j'ai décidé de passer par la réception. Après tout, c'était 4 jours de lune de miel qu'on voulait passer ensemble, pas 4 jours de retraite fermée. Sylvie, elle, tenait pas trop à venir avec moi. D'après elle, ça se passerait pas si simplement. Ça fait que elle m'attendait dans l'entrée de l'hôtel. Moi, je m'amène, toute confiante, toute souriante, puis j'explique poliment, puis gentiment au gars à la réception que, premièrement, on était un couple, en espèce de lune de miel, et puis tout le scénario de la veille avec les deux petits lits. Lui, il m'écoutait, tout attentif et visiblement sympathique à ma cause. Madame, mais toutes mes excuses, madame. Mais vraiment, madame, je ne comprends pas ce qui s'est passé. Mais bien sûr, nous réservons toujours nos lits doubles pour les couples et en lune de miel à part de ça. Alors là, madame, vraiment, je ne comprends pas. Écoutez, si vous voulez bien me redonner vos noms, je vais vous transférer immédiatement. Ah oui? Ah bien moi? C'est Jacinthe Cormier, oui, c'est ça. Et puis Sylvie Durand, c'est... elle là-bas. Les deux bras-là, ils ont parti assez vite que j'ai failli en recevoir une en pleine face. Mais nom de Dieu, de nom de Dieu! Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Des lits doubles? Des lits doubles, mais vous entendez? C'est un hôtel et non un bordel! Quel culot alors! Mais ça va pas, non? En tout cas, j'aurais pas pu rajouter un mot même si j'avais voulu tellement y crier fort. Puis c'était gênant en plus avec tout le monde qui passait par là.
Si vous, vous étiez passé par là, qu'est-ce que vous auriez fait?
Devant la violence qu'elles endurent au quotidien, y compris dans les milieux féministes ou gays, les femmes lesbiennes rêvent de créer des espaces sécuritaires où elles seront libres de nommer leur réalité. Des dissidentes de Gay McGill créent Montreal Gay Women en 73. Et avec elles, Long Time Coming, la première revue lesbienne au Canada. Elles organisent des danses, des cercles de discussion, accueillent 2 des premières conférences lesbiennes au Canada. Au printemps 76, lesbiennes et gays résistent à la répression policière hétérosexiste qui s'intensifie à l'approche des Jeux olympiques de Montréal et organisent une importante manifestation pour protester contre le nettoyage social orchestré par Jean Drapeau et ses sbires. L'Association des droits des gays du Québec naît peu après. Mais il leur faudra 6 ans avant d'ajouter au mot « gay » un « e » entre parenthèses. Ignorée par l'histoire, elle aussi, la présence lesbienne est pourtant ancrée dans les luttes féministes de l'époque. Vers la fin des années 70, la plupart des collectifs féministes radicaux sont composés majoritairement de lesbiennes, comme c'est le cas pour le Comité de lutte pour l'avortement et la contraception libre et gratuite. Au cours de la décennie 70-80, elle participe notamment à la fondation des éditions du Remue-Ménage et de la Pleine Lune, au magazine La Vie en Rose, à la librairie des femmes et au journal Les Têtes de Pioche, à la Coordination nationale pour l'avortement libre et gratuit, au premier centre d'aide aux victimes de viols de Montréal, à la première maison d'hébergement pour femmes, au premier collectif d'autosanté des femmes, à Vidéo Femmes, au théâtre expérimental des femmes à l'Espace Go et aux Folles Alliées. Plusieurs de ces groupes existent toujours. Leurs legs sont précieux. Créée à l'automne 76, la Coop Femmes devient la première association francophone pour lesbiennes.
Ah, c'était pas facile d'être lesbienne à l'époque. Moi, je disais dans ce temps-là qu'être lesbienne, c'est plus difficile parce que on est jugé beaucoup par la société et on est mis en marge de la société en masse, mais c'est plus gratifiant parce que pour moi, ça l'était. De partager l'intimité avec une femme, pour moi, c'était supérieur à partager l'intimité avec un homme, ce que j'avais beaucoup fait dans ma vie d'ailleurs, ma vie d'avant. Alors, on a fini par mettre sur pied un groupe qui s'appelait la Coop Femmes, qui est devenu par la suite la Coop Lesbienne. On était plus assumés. Et ça, c'est devenu un lieu fétiche des lesbiennes à Montréal, tout ça. C'est des danses qui étaient très, très suivies. La salle était toujours pleine. Ça a beaucoup fait pour avancer le mouvement lesbien au Québec.
Tableau de la fin, les maisons s'emportent. Les décors représentant les intérieurs de maisons se défont et se mettent à bouger. Les trois interprètes qui sont derrière les décors poursuivent. Les interprètes de José et François se regroupent à une extrémité de la scène.
Je me suis fait avorter. Je ne l'ai jamais dit à personne.
Des fois, je me sens en prison toute seule avec mon enfant. Je ne l'ai jamais dit à personne.
Mon chum fait l'amour avec d'autres femmes. Ça me fait mal. J'ai jamais dit à personne.
Je me suis séparée. Ça m'a pris 3 ans pour m'en remettre. Personne ne le sait.
Je suis ces pilules. Je suis en train de virer folle. Personne ne le sait.
Je viens d'avoir un enfant. J'ai de la misère. Personne ne le sait.
Je fais l'amour et je fais semblant de jouir. Personne ne le sait.
J'aime une femme. Personne ne le sait.
Mon mari est violent puis j'ai peur. Personne ne le sait.
Je me sens toute seule.
Je suis tannée d'être toute seule.
Je suis tannée du silence.
Je suis tannée de l'indifférence.
L'expérience du théâtre des cuisines m'a amenée ailleurs. Donc, j'ai été très chanceuse là-dedans. J'ai quand même eu une vie de petite humoriste, on the side, qui m'a permis de gagner ma vie quelques années et de continuer à vivre cette adrénaline formidable qui est de procurer du bonheur aux femmes et aux hommes devant qui je jouais. Et j'ai fait beaucoup de 8 mars entre mettons, 1985 et 2002 environ, là, j'étais bien, bien sollicitée quand c'était le temps du 8 mars parce que, justement, il n'y avait pas beaucoup de shows de femmes à présenter. Et puis, en 2000, j'étais la seule femme qui a participé au gala juste pour rire. 48 hommes et une femme, moi. La vie nous a amenés ailleurs, mais quand même, je suis sûre que quand on dit théâtre des cuisines, pour chacune d'entre nous, ça évoque un paquet de souvenirs et il y en a beaucoup des souvenirs heureux là-dedans. Alors, longue vie au prochain théâtre des cuisines, tiens.
Ça s'est terminé d'une façon assez, assez triste, je trouve. Mais je pense avec de la bonne volonté de notre part, de la part de tout le monde, mais on a fait beaucoup d'erreurs. Je trouve des erreurs de ne pas assumer la direction, de ne pas décider de ce qu'on voulait faire. Et puis, on ne se rendait pas compte qu'on avait changé. Ça ne faisait pas si longtemps, entre 75 et 79, mais on avait changé, le monde autour de nous avait changé. On ne pouvait plus faire comme le théâtre des cuisines de 1975. Je sentais qu'on était essoufflé et fatigué. Donc, moi, j'ai décidé de quitter le théâtre des cuisines fin 81. Mais en fait, si je me rappelle bien, ça s'est arrêté. C'est pas moi qui ai quitté le théâtre des cuisines. C'était la fin. On a quand même réussi à jouer ce spectacle-là, peut-être une cinquantaine de fois. Ça a été joué, Les Maisons sans porte, je sais pas. Mais je pense que c'était évident qu'on n'allait pas écrire une autre pièce ensemble, qu'il n'y avait pas la cohésion nécessaire pour ça. Et puis même, moi, j'ai le souvenir qu'on s'était dit c'est la fin, puis que Solange, même qui s'occupait des finances, avait fermé le compte de banque, puis bon, c'était ça. Mais c'était pas juste ça, c'était pas juste le théâtre des cuisines qui était fini, c'était la fin de quelque chose, c'était la fin des années 70, je dirais. C'était la fin de cette époque, de cette façon-là de militer, de cette façon d'entrevoir les changements de la société. On sentait que c'était la fin de ça. On dit ça beaucoup, que la chute du mur de Berlin aussi, toutes les années 80, c'était la fin des utopies, c'était la fin de cette utopie-là. Qui était créer cette société égalitaire, fondée sur des principes marxistes, etc. Bien sûr, ça faisait longtemps que le communisme réel montrait ses failles et ses impostures, mais ça n'empêche que cette idéologie, elle a nourri la gauche pendant encore beaucoup d'années. Le théâtre des cuisines s'est arrêté là, mais plein d'autres choses s'est arrêté au début des années 80.
C'était le troisième épisode de « Nous sortirons de nos cuisines », un documentaire en quatre actes, avec Solange Collin, Joanne Doré et Carole Fréchette. Interprète, extrait de « As-tu vu? Les maisons s'emportent », Marjolaine Beauchamp, Louise Bombardier, Vanessa Landry, Naïla Louis d'Or, Mireille Métellus. Recherche, réalisation, montage et conception sonore, Jenny Cartwright. Production, David Cherniak. Texte de Jenny Cartwright, sous les conseils historiques de Camille Robert et la révision de Mélodie Drouin et Marie-Hélène Racine. Narration, Elkanah Talbi. Conseillère au montage, Natacha Dufault. Mixage, Bruno Bélanger. Recherche musicale, Sébastien Desrosiers, Jenny Cartwright. Archives, Société Radio-Canada. Musique, Microcosme, du groupe Caméléon. Voix et musique, Roxane Turcotte. Ne mourrez pas, du groupe Champagne. Voix, Yvelle Champagne. Musique, Yvelle Champagne, Alan McCarthy et D. L'Écuyer. Comptine pour Mademoiselle, du groupe Wonderbrass. Voix, Joanne Etu. Musique, Diane Labrosse. Mille merci à Yvelle Champagne, Joanne Etu, Rachel Bédard et aux éditions du Remue-Ménage.
Ce documentaire a bénéficié de la résidence de Salon 58, espace culturel à Marsouy, du programme d'aide à la création de Prime, du programme d'assistance à la production d'Oboro. Il a été produit avec le précieux soutien du Conseil des arts et des lettres du Québec et du Conseil des arts du Canada. Il n'aurait pas pu voir le jour sans l'apport essentiel des centres d'artistes.